Le point suivant est rapporté justement par Monsieur Raphaël Pitti, approbation de la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville.
Par les services publics qu'elles mettent en œuvre ou leurs compétences en matière d'éducation, de santé ou de logement, les villes jouent un rôle fondamental dans la garantie des droits humains. En effet, la ville est un espace collectif qui appartient à tous ses résidents et qui doit offrir les conditions nécessaires pour une vie digne d'un point de vue social, politique, culturel, économique et environnemental. La Charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la ville est le résultat du travail préparatoire initié à Barcelone en 1998 dans le cadre de la conférence « Ville pour les droits de l'homme », organisée en commémoration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On participait à la rencontre des centaines de maires et de représentants politiques de différentes villes européennes qui ont uni leur voix pour revendiquer une plus grande reconnaissance politique comme acteur clé dans la sauvegarde des droits humains dans un monde de plus en plus urbanisé. Les villes participantes à la rencontre ont adopté le compromis de Barcelone, qui constituait une feuille de route pour l'adoption d'un document politique visant la promotion du respect, la protection et la garantie des droits humains au niveau local. Durant les deux années suivantes, le projet de Charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la ville a été élaboré, fruit d'un dialogue pluraliste entre des villes européennes représentant de la société civile et des experts dans le domaine des droits humains. Le projet a été discuté et finalement adopté à Saint-Denis en l'an 2000. Depuis lors, une conférence européenne a lieu chaque deux ans pour partager les avancées effectuées par les villes signataires, plus de 400 actuellement, dans la mise en œuvre de la Charte. Après la conférence de Genève en 2008, les villes les plus actives du réseau, Barcelone, Saint-Denis, Pleine Commune, Lyon, Genève et Nantes, ont décidé de confier la promotion de la Charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la ville à l'Organisation mondiale des villes, cités et gouvernements locaux à travers la Commission d'inclusion sociale de démocratie participative et des droits humains. La Charte européenne des droits de l'homme dans la ville se compose de 28 articles répartis en 5 parties. Les dispositions générales rappellent les principes du droit à la ville, de l'égalité des droits et de la non-discrimination, de la liberté culturelle, linguistique et religieuse, ainsi que de protection des citoyens les plus vulnérables, du devoir de solidarité. Elles promeuvent la coopération municipale internationale et le principe de subsidiarité. La deuxième partie rappelle le droit à la participation politique, celui d'associations, de réunions, de manifestations. Elle confère aux signataires une responsabilité en matière de protection de la vie privée et familiale, ainsi qu'en faveur du droit à l'information. La troisième partie réaffirme les droits des habitants en matière de protection sociale, d'éducation, de travail, de culture, de logement, de santé, d'environnement, d'urbanisme, de circulation, de tranquillité, de loisirs, et en matière de consommation. La quatrième partie engage la collectivité signataire à l'efficacité et à la transparence. Enfin, une cinquième partie engage la ville en matière d'accès aux droits, d'exercice des pouvoirs de police et de démocratie participative. Dans de nombreux domaines énoncés, la ville de Metz est largement engagée dans le respect et la promotion des principes édictés par la présente charte. Les politiques qu'elle met en œuvre en matière de solidarité, d'éducation, de rayonnement urbain, d'écologie ou de participation citoyenne se fondent sur les mêmes principes et se mettent en œuvre dans un souci permanent de réduction des inégalités et de mobilisation de tous. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal que Metz devienne la 24e ville de France et la 404e d'Europe, signataire de la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville, et mette en œuvre un dispositif d'évaluation de ses actions dans les différents domaines édictés par la dite charte. Avant de mettre en délibération la suivante proposition et la mettre à l'approbation du Conseil municipal, je voudrais, en conclusion de ce point, et si vous me le permettez, je tiens à vous dire que ces mots ont du sens, que les droits de l'homme et du citoyen, d'autant plus que je reviens hier de Syrie, aux côtés des démocrates, du peuple qui vit sous les bombes. Et j'ai été extrêmement meurtri, choqué d'apprendre que des parlementaires français soient allés rencontrer Bachar el-Assad, avec parmi eux, semble-t-il, un compatriote messin, alors même que notre ville a signé une charte d'amitié avec la ville d'Alep. C'est mon 15e voyage en Syrie, toujours aux côtés du peuple qui souffre, pendant que certains parlementaires préfèrent se parader dans les salons aux côtés des bourreaux. Parce que si certains veulent parler d'Assad, on peut parler de ce plus grand meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale avec Pol Pot. Les 250 000 morts, les centaines de milliers de blessés, les 10 millions de personnes déplacées, la destruction des villes, les 60% des hôpitaux ciblés volontairement, les 5 000 écoles détruites. Cet homme assassine son peuple pour garder le pouvoir, allant même jusqu'à utiliser des gaz chimiques et faire plus de 1 400 morts en une seule nuit le 21 août 2013, et dont principalement des enfants. Cet homme, capable d'affamer des populations entières en les assiégeant jusqu'à les laisser mourir de faim, en quoi cet homme peut-il être le défenseur des chrétiens? Quand il prône la haine et oppose les communautés les unes contre les autres, est-ce là un message de tolérance, de paix et d'humanité? En quoi ce député messin peut-il par son action représenter les valeurs de résistance de cette terre de Lorraine?
Bien, j'ai un certain nombre d'inscrits. Monsieur Aldrin, pour 1 minute, Madame Molinet, pour 1 minute, Monsieur Gourlot, pour 2 minutes, Madame Migaud, pour 1 minute, Madame Zimmermann, Connaisseur Lévingline, Nicolas, ensemble, pour 3 minutes, et ensuite Madame Nathalie de Oliveira. Monsieur Jérémy Aldrin, s'il vous plaît.
Oui, merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, nous voterons ce point. Nous sommes évidemment attachés au droit de l'homme, à l'humanisme, et c'est vrai que je dois dire que le fait que ce point, cette charte, soit rapportée par Monsieur Pitti, je crois aussi a du sens par rapport à l'engagement personnel qui est le sien. Je tenais à le dire. Sur cette charte, deux questions simples, malgré tout. Première question, dans quelle mesure les engagements pris à travers cette charte relèvent de la compétence de la ville pour un certain nombre des éléments qui sont ici notés? Deuxième question, l'adoption de cette charte par la ville est-elle créatrice de droits nouveaux pour les habitants de notre ville? Claire, c'est la question, est-ce que c'est simplement une charte pour un peu réaffirmer des valeurs ou est-ce que ça engage? Par exemple, il y a un chapitre sur le droit à l'urbanisme harmonieux. Si vraiment ça crée des droits nouveaux pour le citoyen messin que je suis considère par exemple que le quartier de l'amphithéâtre ne donne pas lieu à un urbanisme harmonieux mais plutôt inesthétique, plutôt désagréable, plutôt le béton, plutôt la densification, et je voudrais savoir si ça me créerait des droits supplémentaires pour m'élever contre l'urbanisme que je ne considère pas harmonieux dans ce quartier. C'est un exemple parmi d'autres, mais je crois que c'est la vraie question. Est-ce que, finalement, ça va permettre aux Messins de savoir qu'à présent, nous allons ratifier cette charte et de savoir si des droits nouveaux vont être associés à cela? Je vous remercie.
Merci. Madame Molinet.
Monsieur le maire, je vous remercie, chers collègues. Alors, c'est quand même très difficile d'intervenir après ce que vient de dire monsieur le général Pitti, et je me sens presque pas habilitée à prendre la parole. Mais je vais quand même dire ce que j'avais l'intention de dire. Voilà, j'étais très sensible, moi, dans cette charte des droits de l'homme au niveau des villes. J'étais très sensible au fait qu'on rappelle le droit à la santé et le droit à l'environnement. Le hasard a fait que cette semaine, j'ai participé à une réunion climat-cité organisée par Metz Métropole et que j'y ai appris, c'était consacré à la pollution de l'air intérieur. J'y ai appris que nous aurons des normes dans les écoles et dans les crèches, des normes concernant la pollution au benzène, la pollution au formaldéhyde et au CO2. Donc, qui vont être appliquées, si je me souviens bien, fin 2017. Alors, c'est très important, cette histoire de pollution de l'air intérieur. La plupart des habitants ne savent pas que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, par exemple. Ils ne savent pas que les meubles, l'école, les peintures contiennent du formaldéhyde. Et beaucoup ne savent même pas ce qu'est le formaldéhyde. Et par exemple, le hasard a fait aussi que je viens de lire un livre de Véronique Vasseur intitulé « Désintoxez-vous » et je vous, Je vous conseille à tous de le lire. Véronique Vasseur est médecin-chef des prisons et a été un lanceur d'alerte au niveau des prisons. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit lanceur d'alerte au niveau de toutes les substances toxiques que nous respirons, que nous ingérons et qui nous environnent. Et c'est un livre qui donne des clés pour échapper à certaines substances. Mais qui, dans la population, peut savoir qu'il existe un label E1 qui signifie qu'il y a moins de formaldéhyde dans des panneaux de particules? Qui peut savoir que sur les contenants alimentaires, il faut regarder le petit triangle et éviter le chiffre 3 et le chiffre 7 parce que ce sont des contenants alimentaires qui comportent de grosses masses de perturbateurs endocriniens? Qui peut savoir tout cela? C'est impossible. Or, je pense qu'effectivement, les villes peuvent avoir un rôle d'information dans ces questions de santé et d'environnement. Et je suis sensible également dans cette charte au fait qu'on indique bien qu'il faut augmenter les espaces verts, qu'il faut tenir compte de l'importance de la nature dans la ville. Je vous remercie.
Merci, madame. Monsieur Gourlot.
Merci, monsieur le maire. Pour parler de ce que vient de dire aussi le général Pitti, sans défendre, évidemment, Bachar al-Assad est un bourreau, tout le monde le sait, mais la priorité, je pense que c'est quand même d'abattre Daesh. Et deuxièmement, je crois que le jour où Al-Nusra peut-être remplacera Bachar al-Assad, est-ce que ça sera mieux? Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de métropolites chrétiens, etc., vivent mieux, malgré tout, parce que c'est un régime laïque, entre guillemets, voilà. Donc, on ne peut pas en parler en 5 minutes, ça nécessite un vrai débat. Moi aussi, je suis allé en Syrie, je connais Palmyre, je connais Alep, on pourra en parler à part si vous voulez. Bon, maintenant, pour en revenir à cette charte européenne. Ce dossier fait partie de quelque chose, d'un lot, qui enfonce des portes ouvertes et qui arrive pour agrémenter de temps en temps les conseils municipaux. Hein, en effet, on nous demande de signer une charte européenne des droits de l'homme dans la ville, initiée à Barcelone en 1998. Première question, y aurait-il en France des villes contre les droits de l'homme? Hein, étant inscrit dans la Constitution, il ne peut y en avoir. Je veux dire, il n'y en a pas. Donc première inutilité de ce projet. Mais j'en viens à la lecture du document. Ne disposant que de peu de temps, bien que Madame Zimmermann, qui a retrouvé sa main droite d'ailleurs, tout en aimant François, vraiment, mais a disposé de 9 minutes de plus, peut-être que j'aurai un peu plus que 2 minutes, hein, Monsieur le maire. Voilà. Mais j'en viens à la lecture. J'en viens à la lecture donc du document. Ne disposant que peu de temps, je vais y cueillir ici symboliquement quelques fleurs. Au gré, disons, des pages, parce qu'il y a une exégèse qui serait très intéressante à faire, ligne par ligne. Hein. Enfin bon, on va se contenter de quelques trucs. Hein. Donc dans le préambule, il est dit que la ville est l'avenir de l'homme. Bon, la ville, moi je veux bien, permettez pour ma part de croire encore aux vertus de la campagne, de nos villages, où se pratique plus facilement la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi, ou hors de la vaine agitation des villes. Ça, c'est déjà le premier truc. Maintenant, je prends le document. Alors, ici et là. Alors, droit à la liberté culturelle, linguistique et religieuse. Les enfants appartenant à des groupes linguistiques minoritaires puissent étudier leur langue maternelle. Pourquoi pas? Mais moi, je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, quand des familles viennent d'ailleurs, la première chose à leur apprendre, c'est la langue française et la langue du pays d'accueil où ils ont choisi de vivre, contraints ou forcés, ou choisis. Bon, ça, après, c'est le rôle, effectivement, des associations. Et après, pourquoi pas, de parler la langue maternelle. Mais je crois que la priorité, c'est déjà de parler la langue du pays où l'on vit. Ensuite, on nous parle de liberté de conscience et de religion individuelle et collective. Je ne pense pas que la liberté de conscience en matière de religion, à part peut-être certaines sectes, ou individuelle ou collective, est menacée. Les villes prennent toutes les mesures pour faciliter l'intégration sociale de tous les citoyens, qu'elles soient, et en évitant les regroupements discriminatoires. Il ne faudrait pas oublier les citoyens respectueux des règles sociales qui font la majorité et qui sont victimes, eux aussi, de minorités de sauvageons, comme dirait Jean-Pierre Chevènement. Ensuite, devoir de solidarité, oui, d'accord. Coopération municipale internationale. Les villes encouragent la connaissance mutuelle des peuples et leur culture. Pourquoi pas? Mais c'est dans le cadre de la culture, du cinéma, de la musique, des activités de loisirs, de tourisme, etc. Moi, je pense aussi, en revanche, une ville se doit aussi, si je compare la ville à une habitation, à partir du moment où il y a des nouveaux étages qui arrivent ou qui se construisent, il est intéressant quand même que les gens qui habitent les étages connaissent aussi les fondations sur lesquelles ils reposent, autrement tout risque de s'écrouler. Donc une ville doit encourager aussi son patrimoine, son identité propre et la faire partager à ceux qui la rejoignent. Je passe droit à la participation politique. Alors, Alors là, effectivement, il y a un petit problème. Les villes encouragent l'élargissement du droit de suffrage des DJBT dans le domaine municipal à tous les citoyens majeurs non nationaux après une période de 2 ans, etc. Je ne pense pas que c'est de l'ensemble de la ville. C'est simplement les partis politiques, c'est l'action politique qui fait ça. Et puis n'oublions pas que si, certes, vous êtes aux manettes démocratiquement, certes, mais la majorité de la population à Metz n'est pas socialiste, ne partage pas cette vision du vote des immigrés. Donc, voilà, il faut prendre aussi prendre en compte l'opinion de votre population majoritaire. Protection de la vie privée. Oui, alors la ville protège le droit à la vie privée familiale et reconnaît que le respect des familles élément essentiel de la démocratie locale. Est-ce que les polygames, c'est un fait social, même si c'est interdit par la loi, ça existe. On contourne même le problème souvent dans les bailleurs sociaux en donnant. Ben si. On peut s'interroger, monsieur Lecadire. C'est ça. Bon, alors je m'interroge. Mieux.
Merci de conclure.
Non, mais. 2 minutes 40, encore 2 minutes, si je compare moitié de Mme Zimmermann, allez.
Non, mais là, vous aviez prévu 2 minutes.
Tout individu a le droit de s'associer sentimentalement avec la personne de son choix et de se marier sans qu'aucun obstacle, autre que ceux fixés par le HON, puisse s'y opposer. Enfin, là, je tombe. Mais c'est pas ça. Qui vous interdit de vous marier à qui vous voulez? C'est complètement idiot.
Non,
je parle pas d'image pour tous. C'est marqué, tout individu a le droit de s'associer sentimentalement avec la personne de son choix et de se marier sans qu'aucun obstacle autre que ceux fixés par la loi ne puisse s'y opposer. À partir du moment où c'est dans la loi, mariage pour tous ou pas, mariage homosexuel est reconnu, je le reconnais. Donc je vois pas à quoi
monsieur
sert
Goulot,
ces
trois lignes.
Non, mais monsieur le maire, les autorités locales créent les conditions pour que les enfants puissent bénéficier d'une enfance heureuse. L'enfance heureuse, c'est pas que l'enfant, c'est les autorités. L'enfance heureuse, c'est surtout dans la famille. Alors, essayez aussi de créer, effectivement, des familles heureuses feront des enfants heureux. Droit à l'information, alors je passe, circulation de l'information générale accessible. On vous a demandé sur le commerce des documents qu'on n'a toujours pas eu. Ça serait bien aussi, bon, ça c'est un petit détail, mais qu'on ait aussi ces documents. Ensuite, attendez, c'est droit au travail. Alors, droit au travail. Les citoyens des villes ont le droit de disposer de ressources suffisantes moyennant un emploi digne et garant de la qualité de la vie.
Mais on l'a tous lu.
C'est encore la politique.
On l'a tous lu,
vous
n'allez
pas créer un RSA municipal supplémentaire. Encore des dépenses, monsieur le maire. Je vais vous éviter cela. Je passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de...
Écoutez, monsieur.
Droit au logement, droit à l'urbanisme harmonieux. Le prédécesseur l'a dit, etc.
Monsieur Gourlot, on a tous lu.
Droit
la
à la circulation, à la tranquillité dans la ville. On ne parle absolument pas de la sécurité, monsieur le maire. Il manque le droit à la sécurité.
Si, on parle de la police, si.
Voilà, ouais, non, mais c'est pas marqué là-dedans.
Il y a un chapitre sur la police.
Le texte sur la police, c'est tranquillité. Police de proximité. De proximité. Agent de sécurité, de convivialité. Enfin, ce qu'on demande à la police, c'est aussi des agents de répression. Certes, de taper dans un ballon, ça peut être sympa, mais enfin, quand même, c'est pas ça le vrai rôle de la police.
Monsieur Gourlot.
Je termine, monsieur le maire. Cette charte, enfin, donc enfonce des portes ouvertes, elle est inutile, et c'est pourquoi nous ne voterons pas pour
merci.
Celle-ci.
Voilà. Madame Higo, pour une minute, s'il vous plaît.
Oui, monsieur le maire, merci. Alors, l'article 14, numéro 3, les villes signataires s'engagent à ne signer aucun contrat municipal sans y introduire des clauses de rejet du travail des enfants et une clause de refus du travail illégal, qu'il s'agisse de travailleurs nationaux ou étrangers. J'aimerais donc simplement que, lors de la construction de notre centre des congrès, il y aura certainement des travailleurs détachés qui seront embauchés par les entreprises et qu'on s'assure que ces travailleurs détachés auront des conditions de travail et de salaire équivalentes à celles pratiquées en France et que leurs charges sociales seront bien payées dans leur pays d'origine. Voilà, c'est tout simplement ça. On s'engage à ça puisqu'on a signé cette charte.
Merci, madame, pour cette précision. Alors, madame Zimmermann, Colin Sterlet, monsieur Wendling, madame Nicolas, si vous voulez bien faire une synthèse. Allez-y, qu'est-ce qui commande? Alors, on va, madame Zimmermann, allez-y.
Alors, monsieur le maire, je vais vous paraître peut-être désagréable sur ce point, parce que là, pour le coup, je ne vais pas du tout être d'accord avec vous. Alors, avant d'être désagréable, je voudrais simplement vous dire que je vous félicite, c'est grâce à madame Merkel que, enfin, les lustres ont été nettoyés. Et les rideaux. Et là, je vous félicite parce que il aurait fallu qu'elle vienne plus tôt. Parce que le nombre de fois, déjà sous l'ancien mandat, je vous avais demandé de les nettoyer. Vous ne l'aviez même pas vu. Voilà. Alors, monsieur le maire.
Elle ne vient pas ici. Hein.
Non, mais les rideaux, mais surtout les lustres sont nettoyés. Là, merci, monsieur le maire. Enfin. Alors, cette charte, monsieur le maire, d'abord, bon, moi, il me semble quand même que certains points sont totalement superfétatoires. Écoutez, quand on est obligé de dire dans une charte et qu'on est obligé de signer une charte qui dit par les services publics qu'elles mettent en œuvre leurs compétences en matière d'éducation, de santé, de logement, les villes jouent un rôle fondamental dans la garantie des droits humains. Enfin, écoutez, excusez-moi. Enfin, vraiment, je crois que là, on est quand même dans la palissade. Enfin, franchement...
Pas toutes les villes, madame.
Oui, non, mais attendez. Oui. Mais la nôtre, monsieur le maire... Je crois que... Mais c'est pour ça que je vous dis que c'était... Qu'à Metz, c'est superfétatoire. Tout simplement parce que je crois quand même que beaucoup de choses dans cette charte sont appliquées dans cette ville. Voilà. Alors, par contre, bon, moi, je demande quand même une explication, notamment sur... alors, il y a quelque chose qui manque. C'est l'insertion au sein de la collectivité. C'est-à-dire que dans cette charte, il y a plein de droits, il n'y a aucun devoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il n'y a pas de devoir? Moi, quand je signe une charte, j'ai des droits et des devoirs. Voilà. Deuxièmement, il y a une énumération de droits individuels et rien en face. Donc ça, je regrette, je ne peux pas signer ça. Parce que ce n'est pas vivre en société. Parce que quand tout le monde a des droits et personne a des devoirs, mais attendez, la liberté s'arrête ou la liberté de l'autre commence. Voilà. Bah si, bah, c'est n'importe qui le dit. Bon. Ensuite, il y a un autre point, un article 4 qui dit à chacun le droit à la citoyenneté. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les habitants de la ville, quels qu'ils soient, votent. Donc là, je pense qu'on va au-delà de ce que simplement le Parlement à majorité socialiste n'a pas eu le courage de faire depuis 2012, alors que c'était une promesse électorale du président Hollande. Donc, excusez-moi, mais moi je ne me permettrais pas, si j'étais simplement maire de Metz, d'aller au-delà de ce que... le président de la République n'a pas osé faire au Parlement. Donc, moi, je vous dis, il y a des points sur lesquels c'est totalement inutile de la signer parce que tout est fait ici. Et d'autre part, il y a des points qui dépassent nos compétences. Donc, pour cela, moi, je voterai contre cette charte.
Merci, madame. Madame Collin-Sterlet.
Oui, monsieur le maire, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces dans cette charte, de droit à la santé, droit à l'environnement, droit à la culture, droit au travail. C'est vrai que c'est assez incompréhensible parce que ces droits, évidemment, on les reconnaît tous, ils existent et on ne voit pas ce que cette charte rajoute. En revanche, je vais vous dire, il y a un élément qui manque dans cette charte, c'est l'intégration, et l'intégration notamment par l'école. Ça, personne n'en parle. Et il y a un sujet sur lequel je reviens quand même très souvent, et qui me semble essentiel pour intégrer les populations, je sais bien que ça ne vous intéresse pas ce que je raconte, monsieur le maire, pourtant vous devriez, c'est l'aide aux devoirs que je demande depuis des années, qui sont d'ailleurs pratiquées dans d'autres villes sur le temps périscolaire, pour faire en sorte que les enfants, dont les parents ne parlent pas la langue française, aient les mêmes chances que les autres de réussir. Ça s'appelle ça l'égalité des chances. Et là, ça aurait été intéressant d'avoir justement un paragraphe là-dessus, parce que ça me semble absolument essentiel aujourd'hui pour intégrer ces populations. Et ça, monsieur le maire, l'aide aux devoirs, c'est de la compétence de la ville de Metz. Ça, c'est du concret. C'est ce que vous refusez de mettre en place depuis des années, alors que l'éducation nationale ne demande que cela. Et je suis désolée d'apprendre, au gré des rencontres et des rendez-vous avec les présidents d'associations, que ce sont certaines d'entre elles qui ne sont pas conventionnées par la ville au titre des activités périscolaires qui organisent cette aide aux devoirs, notamment à Borny, avec l'aide des étudiants de l'ENSAM, je crois savoir d'ailleurs bientôt de l'IAE et peut-être aussi de l'ENIM. Donc je trouve ça absolument invraisemblable que cet aspect qui est essentiel pour l'intégration des enfants et des familles ne figure pas dans cette charte. Je vous remercie.
Merci, madame. Alors, monsieur Wendling.
Et monsieur le maire, vous nous demandez de ratifier aujourd'hui la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville. Il pourrait s'agir effectivement d'un club de plus dont vous raffolez et auquel vous voudriez nous faire adhérer. Mais en y regardant d'un peu plus près, vous nous demandez de ratifier un document qui fait de nous des citoyens des villes. Et vous remettez en cause le principe fondamental dans notre pays qui est le lien étroit entre la citoyenneté et l'État-nation. Ce lien qui a été sans doute le mieux décrit par Ernest Renan. Notre État s'est construit sur une citoyenneté qui n'est fondée ni sur des ancêtres communs, comme c'est le cas pour nos voisins allemands par exemple, ni sur une religion, ni sur une langue, ni sur une communauté d'intérêts, et ni non plus sur des critères géographiques. En aucun cas, notre citoyenneté, elle est fondée sur un vouloir vivre ensemble, ce que décrivait Ernest Renan comme le plébiscite permanent. Ça implique donc, et c'est le fondement de l'État, une solidarité entre les citoyens de ce pays. En devenant également des citoyens des villes, vous créez d'abord une autre catégorie de citoyens, qui seraient ceux du monde rural, les citoyens des champs, ou pourquoi pas des sous-citoyens, au motif qu'ils ne vivraient pas en ville. Vous créez ensuite une citoyenneté que nous partagerions avec ceux de Genève ou de Barcelone. Mais où serait notre périmètre de solidarité ? Avec eux ou avec les Bretons et les Corses ? Enfin, la Charte nous propose d'œuvrer à la mise en place de textes qui vont parfois à l'encontre du droit national, cela a été dit. Et dans ce cas, lequel devrions-nous choisir ? Vous voyez, toutes ces questions n'apportent pas de réponse satisfaisante à mes yeux, et c'est pourquoi je ne voterai pas non plus ce texte.
Merci. Madame Nicolas.
Merci, monsieur le maire. Oui, vous nous soumettez ce soir donc une nouvelle charte, un de ces textes fondateurs de notre démocratie municipale, qui est empathique, bourré de bons sentiments, dont nous savons hélas qu'ils seront suivis d'aucun effet une fois que l'encre du précieux document aura séché. Donc une nouvelle charte, encore une, pour qui et pourquoi ? Non seulement cette charte des droits de l'homme dans la ville est redondante avec la charte des droits de l'homme et du citoyen qui est inscrite dans notre Constitution, mais elle est également redondante avec l'adhésion que nous avons signée en novembre 2013 avec la coalition européenne des villes contre le racisme qui traite des mêmes problèmes sociaux, à savoir l'équité en matière d'accessibilité à l'emploi, au logement, la liberté culturelle, l'éducation. Coalition qui a vu sa conférence générale le 8 octobre dernier à Karlsruhe et dont la ville de Metz était absente. Donc une charte inutile avec quand même à la clé moins deux articles qui posent à messieurs des sérieux problèmes. L'article 3, ça a déjà été évoqué, où il est dit que les autorités municipales, en collaboration avec les autres administrations, font en sorte que les enfants appartenant à des groupes linguistiques minoritaires puissent étudier leur langue maternelle. Monsieur le maire, moi je vous demande, comment peut-on, dans une république qui se refuse à considérer les hommes et les femmes selon leur appartenance ethnique, sexuelle ou religieuse, comment peut-on chercher à renforcer au travers de l'apprentissage de leur langue dite maternelle leur appartenance à une minorité ? Cela s'apparente au communautarisme qui ne marche pas, on le sait, le Royaume-Uni, les intellectuels et même le gouvernement aujourd'hui qui avait privilégié cette approche s'en éloigne. Nous avons laissé se développer insidieusement, et j'ose espérer par l'humanisme, un certain communautarisme, nous en payons le prix fort aujourd'hui. La République, elle doit fédérer et intégrer. Et pour ce faire, c'est l'acquisition de la langue française qui doit rester une priorité, voire même être renforcée pour ces enfants issus d'un groupe linguistique minoritaire. On ne peut pas nous dire au point 3, comme vous l'avez fait, monsieur le maire, et vous en avez très bien parlé, du communautarisme et de cette nécessité d'apprendre le français, on ne peut pas nous dire ça au point 3 et nous faire signer le contraire au point 4. Quant au deuxième article qui me pose problème, c'est celui qui concerne effectivement l'élargissement du droit des suffrages et des éligibilités à tous les non-nationaux après une période de 2 ans en résidence dans la ville. Je crois, monsieur le maire, qu'aujourd'hui remettre le droit de vote des étrangers sur le tapis, c'est très malvenu, sauf encore une fois à vouloir faire du clientélisme, mais ça serait quand même particulièrement de mauvais goût. ce n'est pas à la ville à encourager cet élargissement du droit, mais aux seuls citoyens, soit par voie référendaire, et pour l'instant, ils y sont largement défavorables, soit par voie législative, qui ne semble pas pour le moment, en dépit des promesses du candidat Hollande, aide à l'ordre du jour. Je vous rappellerai d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Valls dernièrement en parlant du droit de vote des étrangers. Il a dit qu'il fallait arrêter de courir derrière des totems qui ne sont plus adaptés à la réalité du monde. Mais, monsieur le maire, si vous voulez vraiment soumettre cette charte au Messin, bah, puisqu'au point 3, on nous parle de donner la voix par référendum municipal aux citoyens, eh bien, je crois qu'il faudrait peut-être commencer par faire ce référendum municipal sur cette charte. Je crois que ça serait une merveilleuse occasion de permettre aux droits de l'homme dans la ville de s'exprimer. Le noble terme de cette charte ne peut être, à mon sens, s'appliquer à ce texte, et comme tout le monde l'a dit, très hâtif, hein, c'est un catalogue de bonnes intentions, inapplicable en l'état, et on le voit puisqu'on parle d'équité en matière de logement. Monsieur Pitti, dois-je vous rappeler ce qu'on a construit le long de la voie ferrée, sur le banc de Manille, enfin derrière la piscine Lothaire, c'est un vrai scandale. Donc on voit bien que c'est très difficile d'appliquer ce genre de charte. Voilà, en conclusion, monsieur, je vous dirais que ce texte, naturellement, qui à première vue est très généreux, il est surtout très confus et très peu structuré, et je n'y souscrirai pas. Et maintenant, je voulais terminer en demandant à monsieur Pitti ce qu'il pense des massacres des chrétiens en Orient ou de la Légion d'honneur qu'on a remis à un prince saoudien au gouvernement dernièrement. C'est les mêmes sujets, je crois que... Il ne faut pas attaquer d'un côté. Voilà, ça n'a pas sa place ici. Ici, on parle du citoyen et de la ville. Je vous remercie.
Merci. Madame de Oliveira.
Oui, monsieur le maire. Je salue la ratification de la Charte européenne des droits de l'homme dans la ville, qui fait de Metz son 404e signataire. Les droits de l'homme et les collectivités territoriales françaises sont respectivement le global et le local. Entre ce local... Les Messins et leur quotidien sont plus que concernés. Intégration des étrangers, droit de vote des étrangers, égal accès au logement, protection des mineurs, emploi, droit à un environnement sain, protection de la santé, droit culturel. Autant de responsabilités incombant à notre municipalité et mettant en cause les droits de l'homme. Dans ce contexte, les instruments se multiplient et c'est le cas de ce texte important qui, me semble-t-il, n'est pas contraignant, hein, si la ville ou l'État viendrait à manquer un certain nombre d'articles, on ne se retrouverait pas devant la Cour pénale internationale. À Rome, c'est une ligne de conduite et c'est une méthode, une référence. Longtemps, les droits de l'homme ont été l'affaire exclusive de l'État, le rôle du législateur et du constituant en matière de liberté, comme sur le plan international, dans le cadre de négociations de l'exécutif. Alors, il y a différents facteurs sociaux, politiques, juridiques, qui ont contribué à changer la donne, montée des interdépendances, intégration dans l'Union européenne, internationalisation du droit et décentralisation, d'où le rôle nouveau pour les villes, comme la nôtre, qui n'a pas peur de s'engager. Respecter la diversité des contextes sociaux locaux, c'est faire respecter les droits de l'homme partout, en vue d'une universalité concrète, et nous y prenons toute notre part, et y compris les citoyens messins qui sont engagés dans diverses associations. N'oublions pas que ces mêmes droits fondent nos politiques publiques locales, leur stratégie, leur évaluation et la conquête de progrès pour tous. Respecter les droits de l'homme nous encourage donc à améliorer nos services publics locaux. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est que quand nous retrouvons avec des usagers qui ont un français encore faible ou qui ne le parlent pas du tout, nous mettons en place la possibilité de traduction ou d'interprétariat avec l'aide de l'association ISM Est. C'est important et c'est déjà le cas avant la ratification de cette charte. C'est une bonne nouvelle pour Metz, et pour le bien de ses citoyens et pour tous les autres. Et nous pensons, enfin, comme Miguel Torga, et agissons en ce sens, l'universel, c'est le local moins les murs, c'est ce qui fait la beauté de Metz plus grande. L'UNESCO y sera peut-être et certainement aussi sensible qu'à ses murs. Je vous remercie.
Merci, madame. Et dernier orateur inscrit, madame Philippetti.
Merci. Merci, monsieur le maire. Je voudrais rappeler que cette charte, évidemment, elle n'a pas une valeur législative contraignante. Une charte comme ça, c'est une déclaration de principes et de valeurs sur lesquelles on s'appuie tout simplement pour organiser la vie en société. Donc il n'y a aucune espèce de menace ou d'empêchement concernant les différentes inquiétudes qui ont été soulevées par les élus de l'opposition. Je veux rappeler aussi que la ville, c'est l'espace où se crée, c'est la ville en tant que cité, la ville en tant que commune, en tant qu'espace politique. Et donc, c'est normal aussi, surtout à une période où on veut donner davantage de pouvoir aux collectivités locales, territoriales, eh bien, c'est normal qu'on réaffirme, qu'on affirme plutôt les principes sur lesquels repose la politique qui est menée. C'est des principes, d'ailleurs, qui ne sont pas des principes de gauche ou de droite, mais qui sont des principes universels, puisque je rappelle que cette charte, elle procède du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ça a commencé en 1998, cette démarche, et que ça a débouché donc sur une déclinaison européenne et sur une déclinaison par les villes européennes. L'Europe conçue ici non pas comme l'Union européenne, mais vraiment l'espace européen. Et donc, comme ça concerne des villes dans un grand nombre de pays, il y a certains des principes, et je pense notamment à la question de l'enseignement des langues minoritaires, qui s'appliquent tout particulièrement à des pays où il y a des populations qui parlent des langues qui ne sont pas la langue majoritaire. Et donc, il y a des pays européens où il y a des groupes de populations qui parlent des langues qui peuvent ne pas être reconnues par l'État dans lequel ils vivent. Donc, à l'article 3, qui a été cité plusieurs fois, il est écrit « Les autorités municipales, en collaboration avec les administrations, font en sorte que les enfants appartenant à des groupes linguistiques minoritaires puissent étudier leur langue maternelle. » Ce sont donc des enfants qui sont dans des populations minoritaires dans un État et qui ne parlent, dont les parents, bien que citoyens de cet État, ne sont pas locuteurs de la langue majoritaire de cet État. Ça ne concerne pas, je ne sais pas, mais par exemple, j'ai pas un exemple
évident. La Roumanie avec les Roms.
Alors, je ne sais pas. C'est ça. Donc. Ouais. Ou dans des minorités, enfin, je sais pas moi, il y a des minorités, il y a pas, voilà, dans
en
Autriche, il doit y avoir des minorités qui doivent être, à mon avis, qui doivent parler le tchèque, en tout cas slavophone quelque part. Ça ne concerne pas les langues régionales. Il faut bien faire la distinction entre une langue minoritaire...
Je veux finir,
parce que c'est un point important, parce que vous avez soulevé ce point, et c'est un point que j'ai eu à traiter au ministère de la Culture, parce qu'on est responsable des langues. Donc, il y a une différence entre une langue régionale et une langue minoritaire. Une langue minoritaire, c'est une langue qui est la langue parlée par un groupe qui est citoyen d'un pays, la langue qui est parlée par les parents, en l'occurrence d'enfants, qui sont minoritaires, un groupe ethnique minoritaire dans son pays. Ce n'est pas la même chose qu'une langue régionale. Donc, en l'occurrence, ici, il ne s'agit pas de dire que les enfants, par exemple, migrants qui vont arriver en France devront apprendre uniquement la langue ou qui devront apprendre la langue de leurs parents. C'est bien, ils arrivent en France, c'est bien pour s'intégrer dans la société française, pour vivre en France, et donc ils apprendront le français. Mais simplement que si un enfant rom, par exemple, né en Roumanie, il a le droit, en Roumanie, parce que les Roms en Roumanie sont une minorité, d'apprendre, d'aller dans des écoles qui parlent cette langue. Donc ça ne concerne pas, en l'occurrence, la ville de Metz, où il n'y a pas de, ni même la France, où on n'a pas de minorité ethnique constituée et différente de l'ensemble de la République française. Donc c'est un point, je crois, très important, puisque dans la charte, au contraire, il est explicitement, à l'article 13, indiqué que le droit à l'éducation de tous les citoyens et des enfants, évidemment, en particulier, est un droit fondamental qui doit être développé, notamment pour les enfants de milieux très défavorisés, qu'on doit les accompagner. Donc le soutien scolaire, dont parlait Mme Collin-Osterley, peut tout à fait s'intégrer là-dedans. Et il ne faut pas tout mélanger, et il ne faut pas agiter des peurs ou des menaces qui sont infondées. En l'occurrence, c'est une charte de progrès sur laquelle on peut s'appuyer pour développer des politiques municipale, tout à fait en accord avec les valeurs de la République. Et je rappelle que l'année dernière, le 11 janvier, au moment où tout le monde s'est retrouvé dans les manifestations. On a dit qu'il faut trouver les moyens de transmettre aux générations suivantes ces valeurs de la République qui nous unissent. Eh bien, moi, je trouve que la démarche des villes, mais elle peut être complétée, bien sûr, par des démarches de communes rurales, bien entendu, mais cette démarche-là, européenne, qui consiste à rappeler les principes auxquels nous sommes tous attachés et qui consiste à créer un réseau européen aussi des villes engagées dans ces démarches, elle me semble très intéressant. Et donc, évidemment, je le soutiendrai, je voterai pour.
Merci, madame. Écoutez, je suis un peu déçu du débat, je dois vous le dire, parce que je pensais que on arriverait assez facilement à signer dans une relative unanimité ce document. Pourquoi ? Je vais vous dire comment il est arrivé là. Il est arrivé là parce que des associations qui luttent pour les droits de l'homme ici à Metz et qui le font bien. Il y avait encore un cercle du silence, me semble-t-il, hier. M'ont abordé en me disant, vous avez à Metz un ensemble de pratiques qui sont relativement conformes à cette charte, et ce serait bien de la signer parce que de telles chartes doivent avoir du poids. Et c'est vrai que ça peut être qualifié d'un catalogue de bonnes intentions, puisqu'il n'y a pas derrière de règlement, de sanctions. Ça m'a été demandé quelle est la sanction si on n'applique pas, etc. Comment l'a-t-on à l'appliquer, qui va juger? Je pense qu'on a aussi un certain devoir moral en politique. Et je le dis ici avec une certaine tristesse, on n'est pas seulement dans de la règle, dans du juridique. J'ai entendu juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas juriste, mais je sais ce que ça veut dire que de lire un texte comme ça, et puis après ça, de regarder les gens qui l'ont signé. Vous savez, moi, M. Godin, ce n'est pas un ami politique. Hein. M. Juppé, j'ai de l'estime pour lui, mais ce n'est pas non plus un ami politique. Ils ont signé ces chartes-là. Et ce sont des démocrates. Et je les remercie de l'avoir fait, parce que j'aurais moins honte du débat qu'on a eu à l'instant aujourd'hui. On est dans des bonnes intentions sur le plan de la morale politique, c'est vrai. Mais ça ne traverse pas entre la gauche et la droite, ça ne passe pas entre la gauche et la droite. Je crois que des principes comme ça, on peut se les poser comme objectif. Moi-même, j'ai des objectifs tous les matins, et puis j'ai des bonnes résolutions une fois par an, c'est pas pour autant que je les tiens. Je me dis, tiens, je vais faire du sport, tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'essaye. Eh bien, les villes, c'est pareil. Et en matière d'efforts, on est le lieu qui construit la démocratie. Moi, je ne veux pas me comparer à la campagne. Je sais que les villes ont de plus en plus d'importance. On ne fera pas la COP21 sans les villes. Maintenant, on le sait. Parce que ce n'est pas les États qui décrètent, c'est les villes qui font. Principalement. On ne fait pas la démocratie sans les villes. Je travaille dans des réseaux de villes, partout. Eh bien oui, nous échangeons sur les droits de l'homme dans les réseaux de villes. Au Quatropole, on parle de pratiques de solidarité, même dans les achats municipaux. Madame Migaud a fait une remarque extrêmement intéressante. On peut avoir une pratique dans les entreprises qui travaillent sur nos chantiers, en exigeant, en obtenant qu'il y ait des pratiques qui soient correctes. Cette charte, c'est un catalogue de bonnes intentions pour les uns. Moi, c'est important, parce que je ne me sens pas menacé par une sanction si on ne remplit pas ce qu'il y a là-dedans. Mais par contre, je me sens stimulé. Je me sens stimulé et je me serais senti d'autant plus stimulé que j'aurais senti une unanimité derrière. Comme je le vois, vous savez, on est avec Genève, Stockholm, Ljubljana, Manchester, Belfast, Vilnius, Riga, Rome, Sienne, Turin, Venise... Rendez-vous compte de l'horreur, Pavie, Naples, Bologne, Dublin. J'ai parlé des villes françaises, j'en ai pas de quelques-unes, mais il y a Lyon, il y a Nantes, Orléans, Pau, Rézé, Quimper. Alors il y a des villes qui sont à droite, à gauche, je ne sais pas à quel moment elles ont signé. Donc pour certaines, je me garde bien de les citer comme étant des villes de droite, mais les deux que j'ai citées, c'est Bordeaux et Marseille, ça fait un bout de temps qu'elles ont le même maire. Alors là, je suis sûr de ne pas me tromper. Hein. Et j'ajouterai Lille, La Rochelle, Grenoble... Angers, et puis après ça en Angleterre aussi, enfin il y en a partout, hein. Dublin, Florence, Naples, j'arrête. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en bonne compagnie, et je suis un peu étonné du débat. Sincèrement, je suis un peu étonné du débat. C'est imparfait comme formulation, parce qu'effectivement, il y a des tas de choses qu'on fait depuis longtemps. Mais vous savez, Istanbul qui signe ça, hein. Eh bien, c'est un sacré programme pour Istanbul. Parce que, eh bien oui, et moi je trouve bien qu'Istanbul ait senti ça et se soit senti obligé de le faire. Parce qu'effectivement, Istanbul, c'est une ville qui est aussi européenne, même si on considère qu'elle n'est pas seulement européenne. Elle est aussi moyenne-orientale. Ce que je dis, c'est que là-dedans, il y a peut-être des gens qui ont des progrès à faire. Hein. Moi, en tout cas, je considère qu'on a aussi des progrès à faire dans tout un tas de domaines. Et je pense que ces moyens-là, qui sont des moyens qui ne coûtent pas cher, on va me dire ça ne vous coûte rien, il n'y a pas de sanctions. Monsieur Darbois me le disait tout à l'heure à l'oreille, il n'y a pas de sanctions. Ben non, il n'y a pas de sanctions. N'empêche que on peut s'engager par rapport à soi-même. Moi, je trouve que c'est une pratique qui est tout à fait normale. Hein, d'être. Et puis, vous pourrez, si jamais nous étions fautifs par rapport à cette charte-là, ben, nous rappeler à l'ordre en disant attention, on n'est pas réglo par rapport à ce à quoi on s'est engagé. Donc, voilà ce que je dis. Moi, je voudrais apaiser le débat. Je suis un peu déçu, je le répète. Ce n'est pas la loi et les prophètes, hein. C'est une charte d'intention. Mais je pense que si l'hiver est pavé de bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, je pense que de ne pas avoir d'intention, c'est tout aussi grave. Voilà, donc maintenant je vais mettre aux voix. Et puis je vais demander qui est contre. Alors, Madame Nicolas veut expliquer son vote. Vous ne l'avez pas déjà dit tout à l'heure, votre vote, vous l'avez déjà expliqué.
Je ne sais pas.
Vous nous l'avez dit.
Je ne l'ai pas expliqué.
Elle a le droit parce que... dans la charte européenne.
Oui, mais vous nous avez dit que vous votiez contre.
Allez,
déjà.
Le droit de l'élu aux...
Allez-y, aux madame, allez-y.
À la messe. Monsieur le maire, voyez-moi ce qui me dérange. Je vous ai parlé en introduction qu'on avait déjà signé la coalition des droits européens en matière de racisme, qui soulève exactement les mêmes problèmes. Quand vous regardez les textes, c'est la même chose que cette charte. Quand je vois qu'on l'a signée et que personne ne se rend de la ville de Metz ou qu'on fait en général de ces associations-là, je me dis pourquoi on re-signe notre charte. Ça veut dire que la première n'intéresse personne et que là, on est en train de nous faire de la com pour re-signer une charte. Eh bien oui, ça ne m'engage pas à la signer, à la voter. Voilà.
Alors, qui est contre ? Merci de lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui s'abstient ? Une abstention. Eh bien, écoutez, on va quand même adopter cette charte avec une abstention et 10 oppositions. Je vous remercie. Et je remercie le rapporteur